L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Ce matin, je vais apporter un message sur votre futur, votre avenir, les plans que Dieu a pour vous. Vous savez, il y a eu une étude qui a été faite de recherche par les docteurs Leider et Shapiro qui a montré que la crainte numéro un des gens dans le monde, c'est d'avoir vécu une vie insignifiante. Vous savez, nous sommes sur Terre pour un temps précis, un moment donné, et cette étude a révélé que la plus grande crainte enfouie dans chaque personne, c'est que sa vie n'est pas comptée. C'est qu'il n'ait pas laissé une trace dans l'histoire. C'est qu'il n'a pas été utile sur Terre. C'est qu'il a mené une vie insignifiante. Vous connaissez bien cette citation que je cite souvent. Quel est l'endroit le plus riche de la Terre ? On dit que l'endroit le plus riche de la Terre, ce n'est pas les banques ni les musées, mais on dit que l'endroit le plus riche sur la Terre, ce sont les cimetières. Car c'est là que sont tous les rêves qui n'ont jamais été réalisés, les livres qui n'ont jamais été écrits, les discours qui n'ont jamais été prononcés, les films qui n'ont jamais été réalisés, enfin toutes les bonnes œuvres qui n'ont jamais été accomplies. Et beaucoup de chrétiens que je rencontre, en réalité la majorité, sont là et ils mènent leur vie et ils sont frustrés. Frustrés parce qu'en fait, ils ne savent pas ce que Dieu attend d'eux. Ils sont là et ils passent leur temps à espérer entendre une voix de Dieu, une parole de Dieu pour leur dire « Voici, je t'appelle à faire telle œuvre, voici ce que j'ai pour toi. » Et leur vie passe et ils sont frustrés. Frustrés d'aller au travail et de rentrer chez eux et de s'asseoir dans leur canapé, regarder la télé et de voir tous les jours se multiplier de la même façon. À Paris, on a cette expression, on le dit souvent, métro, boulot, dodo. Et pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, la vie n'a pas cette saveur qu'on voudrait. On est au fond de nous à la recherche du plan parfait de Dieu pour nous, de cette volonté spécifique que Dieu a pour nous. Combien de fois avons-nous prié, Seigneur, montre-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Fais quelque chose. Et que ce soit pour nos projets personnels ou les projets que Dieu peut faire au travers de nous pour bénir les autres, il y a beaucoup de frustration. Que ce soit chez les jeunes ou chez les plus âgés, la plupart des personnes meurent sans avoir accompli leurs rêves. Elles meurent sans avoir su pourquoi elles sont nées. Quel est le but de leur existence? Et j'aurais voulu ce matin pouvoir apporter un message, un enseignement. J'espère que ça ne va pas tourner en prédication, enfin peut-être que si. J'ai du mal à parler d'autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ces derniers temps. Mais je sens que dans l'Église, on a réellement ce besoin de savoir ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu a en réserve pour vous. Combien d'entre vous se posent cette question? Quelle est la volonté spécifique de Dieu pour moi? Quels sont les plans qu'il a en réserve pour moi? Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Vous savez, dans le livre de Jérémie, Dieu s'est révélé d'une manière particulière au prophète Jérémie. Il est déjà dit dans Jérémie au chapitre 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Dieu se révèle à Jérémie comme étant celui qui le connaissait avant même qu'il ne soit créé. Dieu a créé Jérémie, Dieu a créé chaque homme et Dieu révèle au prophète Jérémie qu'en réalité, il est votre créateur, il est celui qui vous a fait tel que vous êtes. Il connaît les profondeurs de votre cœur. Il sait tout de vous. Le psalmiste disait, il sonde les cœurs et les reins. Il rentre en vous-même et de loin, il connaît vos pensées. Il vous connaît même mieux que vous vous connaissez vous-même. Dieu est notre créateur. Et c'est lui qui a déposé en nous toutes ces bonnes choses qui sont enfouies en nous. C'est lui qui a déposé en vous vos goûts. C'est lui qui a déposé en vous vos talents. C'est lui qui a déposé en vous les rêves, le potentiel, tout ce qu'il y a en vous. C'est Dieu qui l'a fait. Il vous connaît mieux que quiconque. Et c'est ce qu'il a révélé au prophète Jérémie. Puis, il se révèle un peu plus loin dans Jérémie 31 au verset 3. Et il est écrit « De loin, l'Éternel se montre à moi et il me dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Oh frères et sœurs, réalisez la puissance de cette parole. Dieu dit au prophète Jérémie en se montrant à lui, il ne dit pas « Je suis le Créateur, je suis le Dieu Tout-Puissant ». Il dit « Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime qui que tu sois, d'un amour qui n'a pas de limite, d'un amour qui n'a pas de fin, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu n'as pas fait, je t'aime et je t'aimerai toujours ». L'apôtre Jean a eu cette même révélation dans 1 Jean où il dit « Dieu est amour ». Frères et sœurs, ce matin je veux vous rappeler une chose importante. Dieu est amour. Dieu vous aime. Dieu vous a tellement aimé. Dieu a tellement investi en vous. Dieu, vous êtes tout pour lui. Il est votre créateur et il est votre père. Il est celui qui a pensé à vous avant même que vous ne soyez. Il est celui qui a désiré votre existence. Il est celui qui a formé vos mains, vos pieds, votre tête, vos cœurs, toutes vos parties. Il est celui qui a formé votre cerveau. Il est celui qui a déposé en vous une certaine mesure d'intelligence, une certaine mesure de foi. Dieu a tellement pensé à vous. Le psalmiste disait que les pensées de Dieu, à notre égard, sont plus nombreuses que le sable de la mer. Dieu a pensé à toi tellement dans les détails que tout le sable de toutes les mers du monde ne contiennent pas ses pensées, ne sont pas plus nombreuses que les pensées qu'il a pour vous. Et parce qu'il vous aime, d'un amour éternel, Dieu a pris le temps de formuler sur votre vie des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir, une espérance. Et ce qu'il est dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. » Dieu nous aime, Dieu nous connaît, Dieu nous a créés, et Dieu a pris le temps de formuler sur notre vie des projets merveilleux, sur ta vie, des rêves extraordinaires, des choses que tu as à accomplir. Il a rêvé pour toi. Et pour que tu puisses accomplir ces rêves que Dieu a pour toi, Dieu a mis en toi un potentiel, un talent, une faculté, des habiletés. Il a mis tellement de choses en toi qui sont enfouies en toi pour que tu puisses réaliser ces bonnes œuvres, ces bons projets qu'il a pour ta vie. Le psalmiste disait « Mon corps n'était point caché ». Le roi David, au psaume 139, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce Dieu d'amour qui a pensé à toi, qui t'a créé tel que tu es, qui t'a désiré, qui t'a voulu, et qui a formé sur ta vie des projets pour te rendre heureux, te rendre épanoui, des projets tellement précis. Il s'est arrêté, je peux imaginer Dieu au ciel, sur son trône de gloire, dans une grande pièce où peu de personnes ont accès. Et il est là, et il est assis sur son trône. Et à qui il pense avant que tu n'existes ? À toi. Il pense à toi. Il pense à tout ce que tu vas faire. Il pense à ton bonheur. Il pense au projet. Et là, ses pensées partent, partent, partent. Et elles sont si nombreuses, plus nombreuses que le sable de la mer à ton sujet. Quand je vois cela, je me dis, mais qui sommes-nous pour que Dieu nous aime à tel point ? Qui sommes-nous pour que Dieu, du haut de son trône, s'arrête et prenne ce livre ? Ce livre dont la Bible ne dit pas grand-chose, ce livre dont il est question de nos jours, ce livre si précieux, combien je donnerais n'importe quoi, juste pour quelques secondes, ouvrir ce livre sur les pages qui me concernent et lire ce qui est dit de ma destinée. Combien je donnerais pour voir une seule seconde ces rêves glorieux que Dieu a formulés sur ma vie ? Qui justifie pourquoi il m'a fait de moi une créature si merveilleuse ? Qui justifie pourquoi il m'aime autant ? Qui justifie pourquoi il a sacrifié son fils pour moi ? Qui justifie pourquoi, lorsque je m'éloigne de lui, il est venu me chercher dans cette boue pour me ramener à lui ? Qui justifie qu'il a créé des anges et qu'il les a mis à mon service pour que, assurément, les anges travaillent à ce que ces projets que Dieu a formulés sur ta vie s'accomplissent. Je ne sais pas de quelle matière est fait ce livre. Peut-être de l'or, du diamant, du saphir. Je ne sais même pas quelle technologie Dieu utilise pour contenir toutes nos vies, les milliards de vies dans ce livre. Mais ce que je sais, c'est que Dieu s'est arrêté à un instant. Imaginez simplement les anges amener un bureau devant le trône de Dieu et Dieu commençait à écrire dans ce livre ton prénom. Isabelle, Joshua, Michael, Jérémie, etc. Hervé, Paul. Dieu, avant que tu n'existes, s'est arrêté et a pensé pour toi, a planifié pour toi, a planifié des rendez-vous divins, a planifié des connexions divines, a planifié des temps et des projets où tu serais une source de bénédiction pour ton entourage, où Dieu se servirait de toi pour amener bonheur et paix autour de toi, où tu serais épanoui. Des projets de paix et non de malheur. Il a pris ce temps, il a écrit. Il a écrit dans ce livre chaque jour. Il a écrit ta destinée. Oh, certaines personnes disent à Dieu ou se disent elles-mêmes, je ne suis un moins que rien, je suis nobody, je n'ai rien fait, je n'ai rien accompli. Comment pouvons-nous tenir un tel langage face à celui qui nous a tellement aimés, qu'il a écrit à notre sujet, qu'il a formulé des projets de paix à notre sujet, à ton sujet, pour ton avenir, pour ton futur. Dieu est bon, Dieu est un père, Dieu est ton créateur et il t'aime et pour toi il a pris ce temps. Et beaucoup de personnes se disent « Non, mais je ne suis rien parce que je n'ai rien accompli, parce que je n'ai rien fait. » Laisse-moi te dire que ce n'est pas ce que tu accomplis qui fait de toi quelqu'un aux yeux de Dieu. C'est qui tu es et c'est ce que dit ton propriétaire de toi. C'est ce que dit ton créateur de toi qui fait ta valeur. Peu importe ce que tes parents ont dit de toi. Peu importe ce que tu as produit ou pas dans la vie. Peu importe ce que tu as accompli comme œuvre ou pas, tu n'es pas quelqu'un de rien, tu n'es pas une nobody, tu n'es pas personne, tu as un prénom, Dieu a écrit ton nom dans ce livre et Dieu a formulé sur toi de grands projets, des projets spécifiques, des projets de bonheur, des projets merveilleux. Certaines personnes n'ont pas compris que ce qui fait leur valeur, ce n'est pas ce qu'ils ont accompli dans la vie. Parce que le monde nous apprend que pour être quelqu'un, il faut avoir fait une entreprise, être à la tête d'une association, avoir, même dans le milieu chrétien, sauvé des âmes et guéri des malades. Quel mensonge diabolique ! Tu n'es pas quelqu'un parce que tu as fait ceci ou cela, mais tu as une grande valeur parce que ton Dieu a pris le temps de te créer, a pris le temps de mettre en toi des talents, des habiletés, des vertus que seul toi possèdes, que seul lui connaît. Tu es précieux parce qu'il a formulé sur ta vie des projets de paix. Tu es précieux parce que Dieu t'a aimé. Dieu s'est arrêté pour toi. Dieu a planifié des choses pour toi, qui que tu sois. Peu importe qui sont tes parents, peu importe le milieu d'où tu viens, peu importe ton éducation, peu importe les études que tu as faites ou pas, tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu t'aime tel que tu es. Je me souviens de cette parabole de Jésus, où il a parlé du fils prodigue qui s'est éloigné de la maison. Il avait un homme, un père, avait beaucoup de biens et il a légué son héritage à deux de ses enfants. L'un d'eux est resté près du père, a travaillé pour le père pendant des années, a fait tout ce qui était bon pour le père, tout ce qui était agréable au père, il est resté là. Et l'autre a préféré partir. Il s'est éloigné de la maison de son père. Il est parti au loin, il a mené une vie de débauche, il est tombé dans le péché, il s'est roulé dans la boue, il a dilapidé tous ses biens. Et à un moment donné, il s'est retrouvé tellement bas que la nourriture que mangeaient les cochons, les porcs, il l'a désirée. Il s'est dit, alors je vais retourner dans la maison de mon père, je vais retourner chez mon père et je vais être traité comme ses serviteurs, comme ses esclaves. Parce que cet homme, ce fils, croyait que ce qui faisait sa valeur et ce qui déterminait sa valeur, c'était ce qu'il avait fait de bien ou de mal. Mais il se trompait. Parce que peu importe ce qu'il ferait, son père l'aime, son père est toujours là, son père lui pardonne toujours, son père a toujours les bras grands ouverts. Et quand il est revenu, il a dit, père, traite-moi comme un esclave, traite-moi comme un serviteur, je ne suis pas digne de ton amour. Mais le père a dit, non, tu es mon fils, tu es mon fils, tu es le veau gras, mettez-lui un anneau au doigt, parce que voilà mon fils que j'avais perdu est revenu. Voilà le cœur de Dieu. Mon frère, ma sœur, il faut arrêter de vivre dans la culpabilité, dans la honte, en prenant sur toi le poids de ce fardeau où tu dis « je n'ai pas accompli ceci, je n'ai pas fait cela, je suis un moins que rien » et tu traînes des pieds, tu es frustré et tu es malheureux parce que ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est que tu es son fils, sa fille. Peu importe ce que tu penses de toi, peu importe ce que tu as dit, peu importe ce que tu as fait, peu importe le péché dans lequel tu es tombé, Dieu est toujours là pour te relever. Il te relève et il t'accueille parce qu'il t'aime. Et bien plus que ça, il est toujours prêt à te faire entrer dans ses plans merveilleux. Non, tu n'as pas échoué. Non, ton avenir n'est plus décimé comme le diable voulait te faire croire. Non, tu peux encore aujourd'hui rentrer dans ces merveilleux projets parce que Dieu ne se repent ni de ses dons ni de son appel. Comme le prophète Jérémie l'a dit, de loin je vis le Seigneur et il me dit, je t'aime d'un amour éternel. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Dans ce livre, Dieu a écrit des choses à ton sujet. Dans ce livre, se trouve la destinée parfaite de Dieu pour toi. Vous allez me dire, mais Michael, est-ce que Dieu a tout écrit dans ce livre? Est-ce que Dieu a déjà planifié tout ce que tous les hommes feraient dans le monde? Non. Il n'a pas planifié ce que les hommes feront, mais il a planifié ce qu'il veut que les hommes fassent. Il n'a pas planifié ce que tu es en train de faire, mais il a planifié ce qu'il veut que tu fasses. Et crois-moi, il te connaît. C'est lui qui t'a créé. Il connaît tes goûts. Nous n'aimons pas tous les mêmes choses. Nous ne faisons pas tous les mêmes choses. Nous n'avons pas tous les mêmes attraits. Mais Dieu, lui, c'est celui qui a mis en toi certains attraits. Te demandes-tu parfois pourquoi je suis né comme ça? Pourquoi j'aime ça et un autre aime autre chose? C'est parce que Dieu t'a fait aimer ça. C'est parce que Dieu a mis en toi quelque chose qui t'attire à ça. Vous demandez-vous pourquoi certaines personnes naissent avec des habiletés incroyables? Certains naissent, ils entendent une mélodie. Vous leur mettez un piano sans avoir rien appris au piano. Ils rejouent la mélodie. Est-ce que vous pensez que ça s'est fait tout seul? Non, c'est Dieu, leur créateur, qui a mis en eux une faculté, un talent pour la musique. Oh, combien j'aimerais bien chanter. J'aimerais bien là arriver et vous faire un beau chant comme le pasteur Joël ou comme Mathilde. Mais Dieu ne m'a pas donné ce talent. Je ne suis pas né avec ce talent, mais eux, ils sont nés avec cette faculté. Depuis toute petite, Mathilde, Pasteur Mathilde, elle pouvait bien chanter. Mais moi, depuis tout petit, dès que je chante, on me dit « tais-toi ». Un jour, à Vannes, j'étais dans la chorale, j'étais dans l'église, et le pasteur Alain Patrick, dans notre groupe de jeunes, il a voulu faire une chorale. Et j'étais avec pasteur Jérémy, et je me tenais à l'écart, je ne voulais pas chanter. Il m'a dit « Mais pourquoi tu ne chantes pas ?» J'ai dit « Parce que je chante mal ». Il m'a dit « Mais viens, viens dans la chorale, allez chante, Michael. » J'ai dit « T'es sûr ?» Il m'a dit « Oui, viens. » J'ai monté, on a fait le premier chant. Il m'a dit « Michael, descends. » Mais je n'ai rien demandé pour ça. Je n'ai pas demandé à mal chanter. Mais si Dieu avait fait tous de nous des bons chanteurs, le monde serait bizarre. Mais à certains, il a donné des talents. Et à d'autres, il en a donné d'autres. Et ces talents que Dieu t'a donnés ont un but, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'ils doivent t'aider à accomplir ces rêves que Dieu a pour toi. Le talent, c'est cette habileté que tu as à faire les choses facilement alors que d'autres peuvent travailler toute leur vie et n'y arriveront pas. Et nous avons tous des talents. Chacun d'entre vous, vous avez reçu un talent, une habileté, des choses de Dieu. Des vertus incroyables que Dieu a déposées en vous. Certains, c'est l'hospitalité. Certains, c'est la créativité. Certains, c'est les inventions. Vous pensez que Louis Pasteur et tous ces grands inventeurs, Pierre et Marie Curie, ont inventé ces choses tout seuls? Vous croyez que c'est leur propre intelligence? Qui leur a donné l'intelligence supérieure aux hommes? Qui leur a donné cette faculté, cette soif de chercher, de chercher? Qui leur a dit que c'était possible à Thomas Edison de produire l'électricité et l'ampoule électrique? C'est Dieu! Dieu a déposé en eux une graine de potentiel. Ils sont nés avec ça. Et ce talent, ce potentiel, cet attrait qu'ils avaient, les a poussés à chercher dans ce domaine. Et ils ont trouvé ce qu'aucun homme n'aurait trouvé. Certains, c'est le leadership. Ils vont attirer les gens à eux d'une manière extraordinaire. Et vous, vous essayerez d'exercer un leadership, vous n'arriverez pas. Parce que vous n'êtes pas forcément un leader. Il y a des gens, ce sont des meneurs d'hommes. C'est un talent qu'ils ont. Certains, c'est la cuisine. D'autres, c'est chanter. D'autres, c'est écrire. D'autres, c'est la gestion et l'organisation. D'autres, c'est jouer d'un instrument. Certains, c'est raconter des histoires. Certains, leur talent, leur potentiel, leur faculté que Dieu a déposée, c'est de prendre soin des autres et de les aimer. Certains, c'est l'exhortation et l'enseignement. D'autres, c'est convaincre les gens pour une chose. D'autres, c'est l'habileté de parler. On a tous reçu quelque chose. Tu as reçu de Dieu un talent, un potentiel qui est en toi pour entrer dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. Satan a également des projets pour notre vie. Et il va tout faire pour que vous n'entrez pas dans ces projets. Il va tout faire pour vous détourner des projets de Dieu. Il l'a fait dès le commencement en faisant chuter Adam et Ève. Il les a fait tomber. Et la communion avec Dieu a été brisée, vous le savez. Et à ce moment-là, tous les rêves que Dieu avait pour eux se sont anéantis, n'est-ce pas? Parce que comment l'homme pouvait être heureux? Comment l'homme pouvait être béni sans avoir Dieu pour le bénir? Sans avoir Dieu pour l'inspirer? Sans avoir Dieu pour marcher avec lui? Et Satan a privé l'homme de tous ses projets et de ses rêves. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a envoyé Jésus. Et qui est venu en tant qu'homme, il est venu sur cette terre et il nous a rachetés, il a payé le prix pour que nous soyons pleinement restaurés dans notre communion avec Dieu et que de nouveau ces projets et ces rêves que Dieu a formulés sur notre vie puissent de nouveau s'accomplir. Alors vous qui êtes en Jésus-Christ, voici ce que dit la Bible dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que tu ne sois né, afin que tu les pratiques. Il y a deux types de projets que Dieu a formulés sur notre vie. Les projets que j'appelle projets personnels, projets pour nous-mêmes. les projets de bonheur, les projets maison, famille, santé, provision, tous ces projets. Et il y a d'autres types de projets que la Bible appelle ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Beaucoup de chrétiens sont là, tous les jours, et ils sont focalisés uniquement sur les projets personnels, les projets pour eux-mêmes, les projets pour leur ventre, les projets pour leur bonheur personnel. Alors, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aie une maison ou un appartement? Seigneur, est-ce que tu veux que j'aie une Toyota ou une Mercedes? Seigneur, et il prie, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Et leur journée, leurs prières sont centrées et focalisées sur eux-mêmes. J'aimerais vous dire que la Bible nous dit de ne pas regarder et de ne même pas se soucier de ces projets personnels que nous avons. Les projets dans ce livre, je crois qu'il est écrit dans ce livre concernant vos projets personnels à nous tous, une seule phrase, béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je crois qu'il est écrit, tout ce qu'ils demanderont, donne-leur à cause de Jésus-Christ. Je crois qu'il est écrit, le prix a été payé pour qu'ils aient absolument tout, santé, paix, joie, bonheur. Tout ce dont ils ont besoin, je crois qu'il est écrit, tout est accompli. Je crois que Dieu n'est pas là en train de dire, ah lui, il va être dans une maison, lui, il va être dans un petit appartement, lui, il va être dans un grand palace, lui, il va être riche, lui, il va être pauvre, lui, il va travailler chez IBM, lui, chez Microsoft, lui, oh non, une Mercedes, oh lui, non, une Toyota, lui, Rebecca, lui, Delilah. Non, frères et sœurs, le problème avec les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est que nous passons notre temps focalisé sur ces projets pour lesquels, en vérité, Dieu a dit de ne pas se soucier. Et nous croyons que notre bonheur dépend des projets personnels. Nous croyons qu'il nous faut une maison pour être heureux plus grande. Nous croyons qu'il nous faut un conjoint pour être heureux. Nous croyons qu'il nous faut un bon travail pour être heureux. Et nous passons notre temps à essayer de chercher ce que Dieu veut pour nos finances, pour notre voiture, pour notre retraite, pour toutes ces choses qui sont pour nous. Or, je crois qu'en fait, Dieu dit, fais ce que tu aimes, prends ce que tu veux, achète ce que tu veux. En réalité, nous ne devons même pas essayer de chercher la volonté de Dieu concernant nos besoins personnels. Parce qu'en fait, elle se résume en un verset. Dans Romains, Dieu a dit lui-même qu'il n'a pas épargné son propre fils. Comment ne nous donnera-t-il pas tout en lui? Nous n'avons pas à prier pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour nos besoins personnels. Dieu n'a pas écrit dans le détail ces choses parce que Dieu t'a donné le libre arbitre de choisir. Mais ce que Dieu t'a promis, ce qu'il t'a promis, c'est que quels que soient tes besoins, Jésus a payé le prix de sa vie. Jésus a été meurtri pour ta guérison. Jésus a versé son sang pour le pardon de tes péchés. Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Et toutes les promesses de Dieu, nous dit 1 Corinthiens, sont oui et amen en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu n'as même pas à te soucier pour tes besoins personnels, mais simplement exprimer tes besoins à Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais les chrétiens passent leur temps à essayer de savoir quel travail il doit faire, quelle formation il doit faire, quelle chose il doit faire, quel ceci. Mais en réalité, Dieu va faire passer devant toi les choses. Il va faire passer devant toi Rebecca, ta femme, le meilleur pour toi. Il va faire passer plusieurs opportunités de personnes selon ton cœur parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il sait que si tu n'aimes pas les rousses et que tu aimes les blondes, il va te faire passer des blondes devant toi. Il sait que tu as besoin d'une maison, alors il va te donner l'argent pour ta maison. Nous n'avons pas à chercher la volonté de Dieu pour nos projets personnels. Tout est oui et amen en Jésus-Christ. Dieu veut notre bonheur et je crois que tout cela se résume en une phrase. Demandez, vous recevrez.
Mais les chrétiens, le souci, c'est qu'on passe notre temps à essayer de discerner ces projets qui sont pour notre vente, ces projets qui sont personnels. Et nous passons notre temps à être malades, à être souffrants, à être frustrés, à être pauvres, à être dans la disette, dans le manque, parce qu'en fait, on croit que Dieu doit encore faire quelque chose. Or, on passe à côté de la clé que Dieu a pour nous. La clé pour le vrai bonheur. La clé pour voir nos projets personnels pourvus. Quelle est cette clé ? La Bible dit dans Matthieu 6, versets 31 à 33, « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ? Car cela, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc il n'est pas question de vos besoins personnels. Jésus dit, ne vous en préoccupez pas. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Mais les chrétiens, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Vous savez que Satan a une stratégie pour nous faire entrer dans ses projets de bonheur personnel, et Dieu en a une tout autre. Donc comprenez bien que la clé du bonheur pour vos projets personnels, c'est déjà de ne pas s'en soucier, mais d'appliquer ce que la parole dit, c'est qu'il ne s'agit pas de chercher ses projets personnels, matériels et émotionnels, mais il s'agit de chercher à découvrir ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a les projets personnels, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui demandez, tout est pourvu, le ciel est ouvert. Jésus a payé le prix, Dieu a dit justice soit faite, je libère la guérison, je libère le pardon, je libère toute bénédiction, que tous ceux qui sont en Jésus-Christ soient bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Et c'est chose faite, Dieu a envoyé sa parole. Maintenant les anges depuis 2000 ans attendent, ils te regardent, ils sont là, ils regardent du haut du ciel. Et le Saint-Esprit est là, il attend quoi ? Il attend qu'on manifeste une parole de foi. Il attend qu'on croit, il attend qu'on applique les principes du royaume. Et là, les anges, quand on manifeste notre foi, ils ouvrent la porte, on ouvre la porte de la foi, ils rentrent dans le naturel, ils passent du monde invisible au monde naturel et ils manifestent notre bénédiction et notre provision. Ça se résume à là, frères et sœurs. Nous n'avons pas à chercher tout ça. Mais la Bible nous encourage que pour que nos besoins personnels soient pourvus, nous devons chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Le royaume de Dieu, c'est quoi ? C'est s'occuper des affaires du Père. Mais nous sommes, le diable veut que nous soyons égoïstes. Nous. Et qu'est-ce qu'il fait en faisant ça ? Il nous prive de tout. Parce que Dieu a instauré des principes, celui de semer et de récolter. En réalité, lorsque tu donnes, lorsque tu t'occupes des affaires des autres, lorsque tu t'occupes des affaires de Dieu, c'est-à-dire de ton prochain, de ceux qui t'entourent, lorsque tu fais le bien autour de toi, en réalité, Dieu, il a prévu une loi qui fait qu'en retour, tu récoltes. En retour, les anges s'occupent de toi. En retour, tes besoins sont pourvus. Nous devons commencer à prier pour ceux qui nous entourent, à prier pour notre Église, à prier pour nos proches, à se soucier davantage du bonheur des autres que le nôtre. C'est là la clé. Luc, chapitre 6, verset 38, il est dit, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. » Donnez et il vous sera donné. Dieu fonctionne ainsi. Vous voulez que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin ? Donnez et vous récolterez. Pensez aux autres et oubliez-vous. Et Dieu s'occupera de vous. C'est ça la clé. C'est aussi simple que ça. Mais tant que nous resterons centrés sur nous-mêmes, enfermés sur nous-mêmes, égoïstes, nous sommes en train de faire exactement ce que le diable veut. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta et de Élie. Jésus a dit qu'il y avait beaucoup de veuves dans tout Israël, mais Dieu a envoyé Élie au temps de la sécheresse vers la veuve qui était la plus pauvre, la plus misérable et qui allait mourir dans quelques jours. Pourquoi pensez-vous que Dieu a envoyé Élie vers cette veuve? Élie est arrivé, il avait besoin de manger, il a dit « Fais-moi un gâteau avec le peu de farine qui te reste et le peu d'huile. » Elle a dit, cette pauvre femme, « Mais il ne me reste qu'un peu de farine et qu'un peu d'huile pour faire un dernier repas pour moi et mon fils, puis après nous mourrons. » En réalité, Dieu ne voulait pas priver cette veuve, mais Dieu voulait bénir cette veuve. Mais pour que cette veuve soit bénie, elle avait besoin de donner. En donnant ce qu'elle avait à quelqu'un qui était dans le besoin, le peu qu'elle avait à Élie, au prophète Élie, Dieu lui a permis, en retour, de recevoir en abondance. Et c'est ce qui se passe dans nos vies, frères et sœurs. Le diable veut nous centrer sur nous. Il veut nous renfermer sur nous. Moi, mes projets. Il veut nous faire croire que notre bonheur dépend de ce projet. Mais en réalité, il veut nous faire le contraire de ce que Dieu veut. Parce que Dieu dit, dans Hébreux, dans Actes, au chapitre 20, verset 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et rappeler les paroles du Seigneur qui lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc nous devons entrer dans cette dimension où nous allons non plus nous soucier de ce que nous allons recevoir, mais plutôt de ce que nous allons donner. Car c'est en donnant aux autres qu'on sera heureux. La source de ton bonheur, mon frère, ma sœur, ce n'est pas en restant centré sur toi-même, dans ton petit cocon, dans ton petit coin. La source de ton bonheur, Dieu te le dit, c'est de t'ouvrir aux autres, c'est d'aller vers les autres, c'est de donner, c'est de vivre pour Dieu en servant les autres. Et de ne pas te soucier de toi, Dieu lui-même s'occupera de tes propres affaires. Nous aimerions savoir quels sont ces autres types de projets, ces bonnes œuvres que Dieu a pour nous en réserve. Quelles sont-elles? Oui, je suis là, mais je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi exactement. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, nous devons réaliser que ces projets que Dieu a formés sur nous, ce sont des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est toutes les œuvres qui ne sont pas pour toi, mais pour les autres. Dieu sait que ton bonheur dépend, ton épanouissement dépend de ce que tu vas donner aux autres, de ces bonnes œuvres que tu vas accomplir pour les autres et pour ton prochain. Satan, lui, veut te faire croire que non, tu dois recevoir pour être heureux. Dieu dit non, tu dois donner pour recevoir le bonheur. Joseph est un bon exemple. Au travers de l'histoire de Joseph, qui a eu une merveilleuse destinée, on le sait, Joseph a été élevé, Joseph était juste en dessous de Pharaon, il était à la tête du pays d'Égypte, un homme puissant, un homme riche, un homme prospère, un homme béni. Mais Dieu a élevé Joseph, non pour lui, mais il a élevé Joseph pour les autres. Si tu cherches les projets pour ta vie que Dieu a formulés et que tu penses que ces projets sont pour ton ventre, sache que déjà, ce n'est pas les projets que Dieu a pour toi. Parce que les projets que Dieu a formés, ces bonnes œuvres, sont toujours pour les autres. Joseph a été élevé pour sauver le pays d'Israël. Moïse a été élevé et en ses bonnes œuvres pour sauver Israël. Et dans la Bible, tous les exemples de ceux qui ont accompli des bonnes œuvres, ce n'était pas pour eux, mais c'était pour les autres. Tu n'as pas besoin de recevoir une vision claire de ce que tu dois faire pour entrer dans ces bonnes œuvres. On est là et on s'attend à ce que Dieu nous parle clairement. Que Dieu nous dise, voilà, un tel, tu dois faire telle chose, voilà, c'est ça que j'ai pour toi. Et on attend des détails tellement précis qu'en réalité, on ne fait rien et on ne rentre pas dans ces projets que Dieu a pour nous. Joseph, souvenez-vous, a eu de Dieu que deux visions au début. Et ces visions n'étaient pas du tout claires. La première vision que Joseph a eue, il a vu des gerbes de blé, et il en a vu ceux de ses frères se prosterner devant sa gerbe de blé. Puis il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui représentaient son père, sa mère et ses 11 frères et se prosterner devant lui. Dieu lui a montré, a déposé en Joseph quelque chose qui lui disait « Joseph, tu sais que tu sais au fond de toi, Dieu va faire des choses avec toi, Dieu va t'élever. » Mais c'est tout. C'est tout. Joseph n'avait rien de plus que vous et moi, une vision vaste. Rien de précis, rien de clair. Lorsque j'ai reçu la vision d'Enseigne-moi, Dieu n'a pas été très clair. Lorsque je me suis converti, Dieu m'a simplement dit, « Michael, tu vas faire un grand site internet qui aura un impact au moment de ma nouvelle naissance. » Il a déposé ça dans mon cœur, c'était vaste. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu une vision claire de Dieu que Dieu n'a pas de projet pour toi. La vision que Joseph a reçue était vaste. Elle n'était pas claire. Mais voilà une grande clé. Comment Joseph a pu rentrer dans sa vision? Comment pouvez-vous rentrer dans ces projets que Dieu a pour vous? Comment pouvez-vous entrer dans ces bonnes œuvres spécifiques que Dieu a pour vous en réserve? En servant. En servant, en servant les autres. C'est en servant que Joseph est rentré dans sa destinée. On peut lire ensemble. Dans Genèse chapitre 40, versets 5 à 6. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Je prends verset 5. Au cours d'une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tristes. Alors il questionna les chambellans du pharaon, les officiers du pharaon, qui étaient avec lui en prison dans la maison de son maître. Et il leur dit, pourquoi « avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartient les explications? Racontez-moi donc ce rêve. » Frères et sœurs, c'est en servant les autres, en servant les intérêts des autres, en nous défocalisant sur nous-mêmes. Imaginez Joseph, imaginez son parcours, imaginez un seul instant sa vie. Il avait toutes les raisons d'être centré sur lui. Il avait toutes les raisons de pleurer sur son sort. Il avait toutes les raisons de se lamenter. Ses frères, ses propres frères, sa propre famille l'avaient rejeté. On l'avait mis dans une citerne au fond du trou. Puis après, ses propres frères l'ont vendu comme un esclave à des gens inconnus. Il s'est retrouvé dans une maison. Il a servi, il a été loyal, il a été droit. Puis la femme de Potiphar l'a accusé à tort d'un acte qu'il n'avait pas commis. Il a été accusé à tort et mis ensuite dans une prison. Et entre le moment du passage que je vous ai lu et le moment où Joseph a reçu sa vision, il y a eu 11 années qui se sont écoulées. 11 années, ce n'est pas un an, deux ans de souffrance, c'est 11 ans loin de sa famille, 11 ans trahi, 11 ans rejeté, 11 ans où il a pu souffrir, avoir des sentiments d'animosité, de rejet, de peine et de douleur. Et Joseph était là, dans cette prison seul, avec pour seule chose la conviction que Dieu avait quelque chose de meilleur pour lui et que les rêves que Dieu lui avait donnés allaient s'accomplir, que sa fin ne serait pas une prison. Est-ce que la Bible nous dit, lorsque les gens se lamentent et pleurent ? Oui, elle le dit. Lorsque le peuple en Israël s'est lamenté devant Dieu, lorsque le peuple a murmuré, Dieu se mettait en colère. Et la Bible le dit. Mais Joseph jamais ne s'est plaint. Joseph jamais ne s'est lamenté. Joseph jamais, jamais n'a accusé Dieu de son malheur. Joseph jamais n'a été centré sur lui-même. Au contraire, il a fait preuve de la bonne attitude. Et ce qui caractérisait la vie de Joseph, c'était le service. Oh non, Joseph n'était pas dans une belle maison ou un beau condo comme nous. Non, Joseph était dans une prison. Joseph était coupable, accusé à tort. Joseph était considéré comme un délinquant. Joseph n'avait ni famille, ni proche, ni quoi que ce soit autour de lui. Joseph n'avait ni femme, ni enfant. Il était seul, seul dans son trou. Et il ne s'est pas lamenté. Mais ce que Joseph a fait, c'est qu'il servait. Il a servi. Dans ce passage-là, Joseph aurait pu pleurnicher dans son coin. Mais en prison, Joseph a décidé de servir. La Bible dit que la main de Dieu était sur lui. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas dans quelle situation tu es, dans quelle tragédie tu te trouves. Je ne sais pas comment se trouve ta situation de famille aujourd'hui, ta situation de couple, ta situation financière. Je ne sais pas comment tu es aujourd'hui dans le désarroi, dans la dépression, dans toutes ces choses. Mais Joseph a été l'exemple. Au lieu d'être centré sur lui-même, Joseph a décidé de servir les autres. Et lorsque ce matin il s'est levé et il a vu ses officiers de Pharaon qui étaient tristes, Joseph n'a pas fait « Oh, je suis moi-même plus triste qu'eux. Oh, moi-même, on m'a abandonné. » Joseph n'est pas arrivé devant eux et n'a pas parlé de lui. Joseph ne s'est pas lamenté sur sa situation. Joseph n'a pas pleurniché. Mais Joseph est allé vers eux et il leur a dit « Mais pourquoi êtes-vous si triste ? Pourquoi êtes-vous si triste ?» Joseph s'est soucié des autres et de son prochain. Et il leur a expliqué les rêves et Joseph les a servis. Et là, on tire une grande leçon, frères et sœurs. Si vous ne voulez pas mourir avec vos rêves, les rêves que Dieu a formulés sur votre vie, ces bonnes œuvres, il va falloir servir les autres. Il va falloir que vous vous détourniez de vous-même et que vous commenciez à servir ceux qui vous entourent. Parce qu'en réalité, c'est lorsque vous allez commencer à servir que les dons que Dieu a mis en vous, que les talents et le potentiel que Dieu a mis en vous va se manifester aux yeux des autres et que Dieu va amener des opportunités pour vous faire rentrer dans votre destinée. Mais beaucoup de chrétiens, au contraire de Joseph, veulent exactement savoir ce que Dieu veut dans les moindres détails pour, vous savez quoi ? Entrer par eux-mêmes dans leur appel. Entrer par eux-mêmes dans ces bonnes œuvres. Entrer par eux-mêmes dans ces projets que Dieu avait. Mais Dieu n'a pas besoin de notre aide pour nous faire entrer dans ces projets. Dieu a juste besoin qu'on serve. Au moment où tu vas commencer à servir les autres, au moment où tu vas commencer à te détourner de ta propre vie, mais à te soucier de ton voisin, à te soucier de ton frère et de ta sœur, à aller dans la maison de celui qui est pauvre et lui apporter du pain, aller dans la maison de ton frère qui n'a pas de quoi manger et lui apporter de l'argent, aller dans la maison de celui qui est accablé, qui souffre, et venir et l'exhorter, et lui apporter une parole d'encouragement. À ce moment-là, ton talent, ton potentiel, ce que tu as mis en toi va être réveillé. Va être réveillé. Et Joseph, à ce moment-là, le don que Dieu avait mis en lui, le don d'interprétation des langues, quand il s'est rendu disponible pour servir les autres, ce don a été réveillé. Et Dieu lui a offert l'opportunité de rentrer dans quelque chose de précis de sa destinée. Si nous ne servons pas, si nous restons centrés sur notre vie, si nous nous renfermons dans notre cocon, jamais nous ne découvrirons ces bonnes œuvres pour lesquelles nous sommes nés. Jamais nous n'y rentrerons. C'est en servant que les hommes verront la grâce et le dépôt que Dieu a mis en vous. C'est en servant que ce talent va se manifester. Alors oui, est-ce que nous devons dire « Seigneur, montre-moi » ? Non, nous devons arrêter de prier « Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire de moi ». Nous devons simplement dire « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme bien autour de moi ? Qui je peux aider ? Qui je peux aimer ? Qui je peux honorer ? Qui je peux supporter ? Qui je peux encourager ? Qui je peux relever ? Qui je peux aimer ? En fait, en réalité, nous n'avons qu'à laisser Christ s'exprimer autour de nous. Jésus n'a pas dit à l'apôtre Pierre, tu vas faire une église à, quand il a quitté la terre, à Antioche, à Éphèse, à Jérusalem. Non, il a dit, allez par tout le monde et faites de bonnes œuvres. Voici comment l'Esprit de Dieu était sur Jésus-Christ. Voici comment Dieu a oint Jésus d'esprit et de puissance qui allait de lieu en lieu, faisant le bien autour de lui, guérissant les malades, chassant les démons. Il faisait le bien, il faisait des bonnes œuvres. Et pendant qu'il servait, à ce moment-là, Dieu parlait. C'est pendant que tu es en train de servir que Dieu te communique. Pas avant, pas avant. La vie de Dieu, le Saint-Esprit, tous ses dons, tous ses talents ont été communiqués pour les autres. Alors qu'est-ce que nous devons faire ? Si oui, tu veux rentrer dans cette destinée, tu n'as pas à attendre que Dieu te dise, voilà, fais ça de manière très précise. Non, ce que tu dois faire, c'est te rendre disponible pour ceux qui t'entourent. C'est laisser la vie de Christ s'exprimer. Là où il y a le chaos et le désastre, tu apportes la vie et la paix. Là où un foyer est détruit, tu rentres dans ce foyer, tu pries pour lui, tu aimes ces gens, tu les aides. Paul dit, dans l'auteur des livres hébreux, chapitre 13, il dit, soyez comme prisonniers avec les prisonniers, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez faibles avec ceux qui sont faibles. Dieu nous pousse toujours, toujours, dans un seul sens, nous décentrer de nous-mêmes et nous centrer sur les autres. Frères et sœurs, il y a tellement de gens qui meurent autour de vous. Vous êtes la solution de Dieu pour votre voisin. Je ne sais pas quel est son nom. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais dans ce livre de Dieu, je suis persuadé qu'il est écrit à un moment donné, toi, ton nom doit aider un tel, doit guérir un tel, doit délivrer un tel. Mais qu'est-ce qui se passe ? Nous attendons d'être dans de meilleures conditions. Nous attendons d'être dans une meilleure situation. Nous attendons d'avoir nos besoins pourvus. Est-ce que Joseph a attendu de sortir dans la prison pour servir les autres ? Non, mais tel qu'il était, avec la grâce qu'il avait, avec l'amour qu'il avait pour Dieu, l'amour qu'il avait pour les autres, il s'est rendu disponible. Joseph avait 5 attitudes. Juste avant, j'aimerais vous dire, je suis allé à l'île de la Réunion et j'ai rencontré une église vraiment extraordinaire, l'église d'un pasteur qui s'appelle Bruno Picard. Ils ont gagné 500 membres en à peine 8 mois depuis le début de l'année. 500 nouveaux membres, dont la plupart étaient des inconvertis et ils les ont gagnés à Christ. Vous savez, ce n'étaient pas des gens super là, loin, avec des puissants dons de guérison, etc., etc. Non. Mais il y a une chose qui m'a marqué, c'est que dans cette église, chaque personne avait un désir, un seul désir, une seule vocation, aimer les autres jusqu'à ce qu'ils nous demandent pourquoi. Chacun d'eux, à n'importe quelle heure de la journée, ne pense pas à lui et à ses propres intérêts, mais ils sont en train de dire « Qui je peux aider aujourd'hui ? Qui je peux bénir aujourd'hui ?» Et il y a une sœur comme ça, elle servait dans une cellule de maison, mais ce n'était pas son appel, l'enseignement. Et nous ne devons pas avoir peur d'être dans un endroit et de servir dans un endroit de notre église ou autour de nous, à nous dire « Mais est-ce que je suis à ma place ? Oh non, c'est pas ma place, alors je quitte ce service, je vais dans un autre. Est-ce que c'est ma place ou pas ? Non, c'est pas ma place, je quitte ce service ou pas. » Parce que j'ai peur que Dieu me veuille ailleurs. La seule chose dont tu devrais avoir peur, c'est d'arrêter de servir, d'arrêter de manifester la vie de Dieu qui est en toi. Parce que je t'assure, lorsque tu sers, les anges sont là. Lorsque tu t'occupes du prochain, les anges sont là. Et ton potentiel, ce talent, cette vie que Dieu t'a donnée, cette chose qu'il a mis en toi, la puissance du Saint-Esprit en toi, va se manifester. Vous savez pourquoi l'Église voit si peu de résultats ? Parce que nous ne sommes plus en contact avec les cibles de l'amour de Dieu. Nous sommes centrés sur nous-mêmes, ma famille, ma maison, mon business, mon travail. Or Dieu dit, laissez ces choses, cherchez les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance et toutes ces choses par-dessus vous seront données. Il y avait une sœur là-bas, elle servait dans une cellule de maison. Elle enseignait, mais ça ne marchait pas, ça ne grandissait pas et tout. Mais au travers de son service, les leaders de l'église ont remarqué, et elle-même, elle a remarqué qu'elle avait en elle un talent, un don pour prendre soin des personnes âgées, des personnes qui sont malades. Et à cause de ça, elle a été conduite à aller vers les gens à l'hôpital. Et elle a démarré une association au travers de l'église. Et rien qu'en une année, cette sœur a apporté l'évangile à 240 malades, a prié pour des malades et les a guéris pour beaucoup. Une simple sœur. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait de précis ? Elle a commencé à servir. Mais elle avait un talent. Et par le service, ce talent a été révélé. Cette vie a été libérée et elle a commencé à servir dans les hôpitaux. Aujourd'hui, l'hôpital appelle l'église pour que l'église s'occupe de gérer les malades dans l'hôpital. Vous imaginez un peu une femme, une simple sœur, une simple sœur. Il y a une autre qui s'appelle Émilie dans cette église. Elle, son talent, c'est la cuisine. Alors elle accueille les serviteurs de Dieu, elle accueille l'église, elle fait des repas extraordinaires. On a été avec ma femme. Elle fait de bonnes œuvres autour d'elle. Vous savez, nous ne sommes pas tous appelés, comme disait la sœur Annabelle, à être des Moïse, à être des Élie. Je ne sais pas si Dieu vous appelle à être leader d'une grande structure ou pas, mais ce que je sais, c'est que jamais, si nous ne nous servons pas, si nous ne nous rendons pas disponibles pour les autres, nous n'entrerons dans ce que Dieu a pour nous. S'il y a une chose à retenir, c'est cela. Dieu a mis des talents en toi. Dieu a mis des rêves en toi. Et si tu attends que Dieu te parle, je peux te dire, il ne te parlera certainement pas. Il n'a pas parlé à Joseph pour lui dire qu'il serait le bras droit de Pharaon. Il a juste conduit Joseph lorsque Joseph servait et se rendait disponible. Il y a 5 attitudes dans la vie de Joseph, qui lui ont permis de rentrer dans ces projets spécifiques de Dieu pour sa vie. La première, c'est la crainte de Dieu. Le diable va tout faire pour avorter votre destinée en vous poussant à pécher contre Dieu. Il va tout faire pour vous amener à vivre dans la boue du péché. La Bible nous dit dans Éphésiens, au travers de l'apôtre Paul, si vous péchez, si vous mettez en colère, ne péchez point. Et elle dit tout de suite après, ne donnez pas accès au diable. Le péché est la porte d'entrée dans votre vie que vous ouvrez et vous dites, Satan, entre et serre-toi comme tu veux. Et Satan vient et détruit. Il voulait avorter la destinée de Joseph. Mais Joseph avait la crainte de Dieu, l'intégrité et la sainteté. Il a marché dans intégrité et sainteté. Et Dieu l'a préservé. Frères et sœurs, je ne sais pas si dans ta vie il y a des zones d'ombre et des ténèbres. Peut-être que tu caches des péchés cachés, des demi-mensonges. Peut-être que tu as une autre face dans le secret. Mais Dieu te dit, à moins que tu marches dans l'intégrité et la sainteté, ce ne seront pas mes projets qui s'accompliront dans ta vie. Mais ce sont les projets de Satan. La deuxième attitude que Joseph avait, c'était la foi. Au lieu de se lamenter, je suis dans l'église depuis maintenant 2 ans et demi, ici. Et je me rends compte qu'il y a une partie de certains chrétiens ici qui sont stables, solides, enracinés dans la foi. Leur vie est correcte. Mais il y a une autre partie. Constamment, ils sont focalisés sur leurs problèmes, sur là où ils ne sont pas et où ils aimeraient être. Et ils souffrent. Et ils se lamentent. Et ils pleurent. Et ils crient. Il est temps, Dieu attend à ce qu'on manifeste la foi. Il est temps que nous ayons foi. Il est temps qu'on se lève et qu'on arrête de pleurnicher. Il est temps qu'on arrête et qu'on prenne nos tétines et nos biberons et qu'on les jette et nos couches et qu'on les jette. Il est temps, le meilleur remède pour certains chrétiens, et ça a été mon cas parfois, c'est, vous savez ce dont on a besoin ? C'est de nous donner un bon coup de pied dans le derrière. Vraiment ! Vraiment ! Pourquoi continuons-nous à nous lamenter alors que Christ a ouvert le ciel, alors que tout est accompli, alors que nous avons le Saint-Esprit ? Au lieu de rester centrés sur nous-mêmes, frustrés, nous sommes les seules personnes qui pouvons décider de nous lever et de marcher par la foi. Joseph ne s'est pas lamenté sur son sort. Joseph n'a pas pleuré pendant des années sur son sort. Il s'est levé. Il s'est levé et il a servi les autres. Il a arrêté de penser à lui-même et il s'est levé pour les autres. Il y a tellement de gens autour de toi qui attendent ta révélation, attendent que tu t'occupes d'eux, attendent que tu te détournes de toi-même. Il a eu foi en Dieu. Il savait que Dieu s'occuperait de lui. Il savait que la prison, ce serait un passage. Alors, il a détourné ses yeux de lui-même. La troisième chose, c'est la communion avec Dieu. Joseph, dans ses moments d'épreuve, a conservé sa communion avec Dieu. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ta condition actuelle qui va déterminer si Dieu est avec toi ou pas. Jean-Baptiste, il avait juste de quoi manger et boire. Et pourtant, Jésus a dit qu'il n'y avait pas de plus grand homme que Jean-Baptiste avant Jean-Baptiste. Dieu était avec lui. Ce n'est pas parce que Joseph était dans une prison que Dieu n'était pas avec lui. Ce n'est pas parce que dans ta vie tu as des problèmes que Dieu n'est pas avec toi. Mais l'attitude qu'il faut avoir dans ces moments, c'est se tourner vers les autres. C'est d'arrêter d'être focalisé sur nous. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons laisser Christ s'exprimer et Christ n'est pas centré sur vous. Christ est centré sur votre entourage. Christ est centré sur les autres. Alors la vraie question que tu dois te poser, comment puis-je aider mon prochain ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ce que j'ai, avec la parole de foi, avec la guérison, avec l'autorité du nom de Jésus, avec l'amour de Dieu ? Comment je peux faire pour aider les autres ? Et Joseph, dans ces temps de misère et de souffrance, qui aurait été des temps de misère et de souffrance pour nous, il a su ne pas souffrir et ne pas se lamenter. Et il gardait sa communion avec Dieu. Dans ces temps de difficulté, il est resté proche du cœur du Dieu. Il est resté proche du cœur du Père. Et Dieu était son confident. Lorsque ces gens avaient un problème, lui savait une chose. N'est-ce pas au Dieu d'Israël ? N'est-ce pas à mon Dieu ? Qu'appartient la solution, l'interprétation des rêves. Lorsque, au sein de tes difficultés, tu arrêtes de regarder à tes difficultés et à tes problèmes, tu dis c'est fini, peu importe, Dieu s'occupera de moi, moi je vais servir les autres, je vais m'occuper des autres, je vais donner ma vie pour le service. À ce moment-là, tu restes en communion avec Dieu et tu te dis, mais moi, le Saint-Esprit habite en moi. Tu pries, tu parles en langue, Dieu te communique des choses et tu es la solution pour ceux qui t'entourent. Et là, plein de choses vont être révélées. Des opportunités incroyables. Combien de ministères pastoraux ont démarré ? Combien ? Lorsque simplement des personnes ont commencé à prendre soin de ceux qui les entouraient. Combien d'orphelinats ont démarré ? Lorsque simplement une petite dame a commencé à se soucier des pauvres comme Mère Teresa ou comme Heidi Baker. Oh, Dieu a peut-être déposé en toi ce talent et ce fardeau pour aider les pauvres. Mais ce n'est pas en attente que Dieu te dit « commence un orphelinat », il ne te le dira pas. Il va peut-être te dire un jour « tu feras certainement quelque chose de grand pour ses enfants ». Mais c'est lorsque tu commenceras autour de toi à soutenir ces pauvres Philippiens qui ont été attaqués par ce typhon, ces pauvres orphelins, quand tu commenceras à te soucier de ces pauvres dans la rue, ou toi qui veux un ministère auprès des prisonniers, c'est quand tu commenceras à te soucier des prisonniers et à prier pour eux, à les aider, que Dieu révélera des choses et te fera entrer, et pas avant. Ta communion est indispensable. J'ai presque fini. Joseph s'est rendu la quatrième attitude disponible. Disponible parce qu'il n'était pas centré sur lui. Disponible parce qu'il a laissé l'amour de Dieu l'inonder. Il s'est rendu disponible pour aider les autres. Jésus est venu sur terre non pour servir, non pour être servi, mais pour servir. Lui, le Fils de Dieu, lui, le Créateur de toutes choses, nous a montré l'exemple suprême. Il s'est dépouillé. Il a fait don de sa vie. Il ne s'est pas lamenté sur son sort. Frères et sœurs, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, arrêtons de nous lamenter sur notre sort, sur nos challenges, sur nos difficultés. Mais comme Jésus, vivons pour servir les autres, pour aider cette humanité qui souffre. Jésus a montré l'exemple à la fin de son ministère. Dans un temps merveilleux, il est venu aux pieds de ses disciples, de Pierre. Il a commencé à laver les pieds. Et Pierre a dit, non Seigneur, tu ne laveras pas mes pieds. Jésus a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre a dit, bah, lave-moi tout le corps alors. Mais Jésus montrait un exemple suprême. C'est en servant les autres que tu seras heureux. C'est en servant les autres que les bonnes œuvres de Dieu s'accomplissent dans ta vie. C'est en servant les autres qu'à un moment donné ton potentiel se révèle, que Dieu te distingue et te met à part. Étienne et Philippe, ces deux grands évangélistes, c'étaient des simples chrétiens de l'Église. La Bible dit qu'ils servaient aux tables, ils aidaient les pauvres, ils servaient à la nourriture, ils servaient les besoins de l'Église. C'étaient des anciens dans l'Église, certainement. Et à un moment donné, quand ils servaient, vous croyez que tout d'un coup... Le Saint-Esprit est descendu sur Étienne, il a commencé à guérir partout des malades et Philippe aussi à chasser des démons. L'évangéliste, non. Quand les gens venaient et que les gens étaient malades dans le service, ils rencontraient les besoins des gens. La vie, le potentiel, le rêve que Dieu avait mis en lui a commencé à se manifester. Et là, il a commencé à avoir compassion pour eux, pour les malades. Et Étienne commençait à poser sa main sur eux et à les guérir. Et ils étaient guéris. Et Dieu l'a inévitablement conduit vers ce puissant ministère de guérison. Pareil pour Philippe. Il a commencé dans le service des tables. Et puis tout d'un coup, il y avait des personnes qui étaient démoniaques. Et il priait pour eux. Et les démons partaient. Et puis son ministère a commencé. Autour de toi, il y a tellement de besoins. C'est lorsque tu commenceras à te rendre disponible pour servir ces besoins, pour répondre à ces besoins, que ta destinée sera pleinement révélée. Et je finis par ce dernier point, l'humilité. Joseph était une personne humble. On le voit après qu'il est resté humble vis-à-vis de ses frères. Je ne rentre pas dans les détails. Mais l'humilité est indispensable. La Bible dit, dans Romains au chapitre 12, verset 16, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » N'aspirez pas à ce qui est élevé. Un autre souci, c'est que beaucoup de personnes veulent tout de suite un ministère international, veulent tout de suite être... fondateur d'une organisation, directeur de Enseigne-moi et fondateur d'Enseigne-moi, par exemple. Pasteur principal de leur église. Ils veulent prendre la place du pasteur, ils veulent prêcher, ils veulent le microphone. Ils veulent tout de suite des choses grandes, ils veulent prêcher devant les foules. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ce que Christ nous a appris. Christ nous a appris l'humilité. Christ nous a appris de croire pour la multitude peut-être, mais de s'arrêter pour une seule personne. Christ nous a appris l'humilité. Paul, dans Philippiens, au chapitre 2, il nous dit, « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. Comment servir les autres si nous-mêmes, on considère qu'on doit être servi ?» Comment aider les autres si nous-mêmes, on considère qu'on est quelqu'un? Non, Christ lui-même n'a pas considéré sa vie comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Il t'a regardé, il m'a regardé comme supérieur à lui-même. Et parce qu'il nous a regardé comme supérieur à lui-même, il a commencé à nous servir. Pour pouvoir regarder les autres comme supérieurs à toi-même, il faut considérer la valeur et le potentiel que Dieu a mis dans les autres. Il faut que tu considères comment Dieu voit ces autres. L'humilité fera que tu vas te rendre disponible. L'humilité fera que tu vas arrêter de penser à toi, mais tu vas te soucier des autres. Oh, si vous saviez ce que c'est que d'être à la tête d'une œuvre. Je n'imagine même pas les soucis que le pasteur Joël a. Moi, Enseigne-moi, j'imagine que plusieurs personnes voudraient, oui, être directeur d'Enseigne-moi. Mais si vous saviez les heures sup que c'est, les pressions et les deadlines, les bugs à n'en plus finir, les problèmes à résoudre, le poids à porter parfois sur ses épreuves, sur ses épaules. Il n'y a rien qui procure une joie dans le fait d'avoir créé Enseigne-moi. Rien, absolument rien. Il n'y a rien qui procure une joie d'être directeur d'Enseigne-moi. Absolument rien. Il n'y a rien qui procure une joie d'être à une position d'autorité de pasteur principal d'une église. Absolument rien. Ça ne procure rien. La seule joie que je peux avoir pour Enseigne-moi, la seule joie qu'un pasteur principal peut avoir, c'est celle de voir ce pour quoi tu travailles transformer des vies, de voir les malades guéris, les malades guéris, de voir les gens qui sont accablés, la tête baissée, relevés, ceux qui n'ont plus d'espoir, avoir un espoir. Voilà la joie. Alors n'aspirez pas à ce qui est levé pour vous-même. Si vous vous dites, oui voilà, Dieu m'appelle à faire ça, et qu'au fond de votre cœur, vous savez que c'est pour vous, parce que vous en avez marre de servir les autres, vous voulez que les autres vous servent, à ce moment-là, dites-vous une chose, c'est même pas de Dieu. Dieu n'y est pas. Parce que le cœur de Dieu, c'est servir les autres. Il n'y a aucune joie dans le fait de diriger une équipe. Aucune. Aucune joie dans le fait d'avoir une grande maison de bonheur. Non, le vrai bonheur, c'est lorsque Dieu se sert de toi pour aider les autres. Le vrai bonheur suprême, c'est lorsque ta vie compte pour quelque chose. Le vrai bonheur, c'est lorsque tu fais ce qui est agréable à Dieu. Il y avait dans la Bible une femme qui s'appelait Dorcas, une simple femme. Quand elle est morte, la Bible dit que tout le village pleura la mort de Dorcas. Qu'est-ce que cette femme avait fait ? La Bible dit que Dorcas était une femme qui aidait les autres et faisait de bonnes œuvres. Dorcas était une femme qui se souciait des autres. Elle faisait des vêtements pour les autres. Elle faisait de la cuisine pour les autres. Elle aidait les autres. Elle était toujours là avec une bonne parole, une parole d'encouragement, une parole. Et tout le monde a pleuré sa mort. Tout le monde. Et au point qu'ils l'ont amenée à l'apôtre pour que l'apôtre Pierre la ressuscite. Ce qui procure une joie et une satisfaction réelle dans ta vie, c'est cela. Vous n'imaginez pas les pressions que c'est que d'être à la tête d'une grosse œuvre, d'un pasteur. Vous prêchez, vous prêchez, vous prêchez la parole, vous enseignez et vous voyez les gens ne pas changer. Vous avez prêché quelque chose le dimanche, 2 semaines plus tard, la personne fait exactement le contraire de ce que vous avez prêché. Les frustrations et le diable qui vient, qui dit « tu vois, ton travail ne sert à rien ». L'esprit de dépression qui peut reposer. Alors pourquoi aspirer à de grandes choses comme ça ? Non, par humilité, arrêtons-nous pour notre voisin, notre prochain, celui qui nous entoure. Voilà la clé. La clé. Voilà comment Dieu commencera à vous révéler les choses spécifiques.
Père éternel, je veux te remercier, Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu nous invites. Tu nous invites, Seigneur, à avoir les yeux de ton cœur, tes yeux, Seigneur, pour les gens autour de nous. Qu'on puisse avoir ce désir de servir, ce désir d'aimer véritablement, comme toi, tu sais aimer. On ne veut pas être rempli de nous-mêmes et préoccupés juste avec nos ambitions personnelles. Seigneur, on sait que tu n'es pas là-dedans. Mais Seigneur, on veut avoir tes ambitions, on veut avoir ton cœur, ton désir, ton agenda. Et Seigneur, merci de nous donner cette vision pour les gens autour de nous. Merci de nous aider à aimer véritablement. Et comme on est là, Seigneur, on se prépare à vivre des grandes choses dans ta présence. Comme on va prier ensemble cette semaine pour vivre ta gloire. Seigneur, notre motif, c'est jamais pour se péter les bretelles et dire « on a fait ceci, on a fait cela ». Mais Seigneur, on veut payer le prix dans ta présence pour voir des hommes venir à toi. Comme on a entendu parler de l'église à l'île de la Réunion, des gens qui se sont donnés pour les gens, qui ont osé payer le prix, qui ont osé prier, qui ont osé penser aux autres, pas juste à soi-même et être égoïste, mais à vraiment penser aux autres. Seigneur, tu as rajouté. Seigneur, je prie aujourd'hui que tu nous délivres de nous-mêmes, que tu nous délivres de nous-mêmes et d'être préoccupés juste avec le « je ». Dans notre société, on parle tout le temps du « je », ce que j'ai besoin, ce que je veux. Mais Seigneur, aide-nous à voir notre prochain qui a besoin de l'amour de Dieu, qui a besoin de ta touche, qu'on soit la personne, Seigneur, que tu vas utiliser pour donner cette parole d'encouragement, pour donner cette parole de connaissance, cette parole de sagesse, peu importe, Seigneur Dieu, cette main qui va imposer les mains aux malades pour voir des guérisons. Seigneur, sers-toi de nous, Seigneur Dieu. Sers-toi de nous et glorifie ton nom dans cette église, dans cette région. On a prié au nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, parce que je sais ce matin, tu es en train de faire du ménage dans des cœurs. Tu es en train d'enlever des choses, des ambitions personnelles, des désirs qui venaient de la chair. Aujourd'hui, Seigneur, on t'invite, Esprit de Dieu, viens faire le ménage en nous. Révèle-nous les choses qu'on doit abandonner pour avoir un focus qui est le tien. Que notre cœur soit vraiment comme le tien, qu'on puisse vibrer avec ton cœur, Seigneur, et qu'on puisse accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance pour nous. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.